les parts actualités.
Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Parts Actualités, édition du 28 mai 2018. Hélène Denis avec vous. Et en manchette, aujourd'hui, ils n'embauchent que des personnes handicapées. L'absence de médecins met en péril le traitement des anglophones aux prises avec des problèmes de dépendance. Être l'enfant d'un parent différent. Inauguration de nouveaux locaux pour les jeunes en difficulté à Gatineau. 33 000 coureurs, 33 000 raisons. En entrevue, Annie Tremblay, responsable du programme gymnastique adapté chez Via Gym, et Mireille Tremblay, professeure associée département de communication sociale et publique, faculté de communication de l'UQAM, qui nous parlera du programme définitif de notre semaine droit, citoyenneté et handicap, UQAM 2018. Il n'embauche que des personnes handicapées. Un entrepreneur de la Montérégie embauche seulement des personnes ayant un handicap physique ou mental pour favoriser leur inclusion sociale. Bertin Savard a ouvert son café au croissant 21 à Rigaud mardi dernier. L'homme de 54 ans qui approche de sa retraite voulait depuis longtemps ouvrir un restaurant qui servirait café, viennoiserie et sandwich. Son modèle d'affaires est différent des cafés habituels. Son commerce était avant tout l'occasion d'offrir une perspective d'emploi pour son fils de 24 ans qui est atteint de trisomie 21, dit-il. Ici, on favorise la diversité. Nous n'embauchons que des personnes avec un handicap. On veut envoyer un message clair qu'ils sont des membres importants de notre société, pointe M. Savard. Le propriétaire de l'entreprise mise actuellement sur plusieurs bénévoles, mais seulement 2 employés, et dit opérer son commerce sans aide gouvernementale. Outre son fils Jasmin Savard, une adolescente de 14 ans atteinte de paralysie cérébrale, Anaïs Sabourin, travaille les fins de semaine. Les 2 employés n'ont aucun problème à remplir leurs fonctions, estime le propriétaire. Les clients sont vraiment compréhensifs. Ils savent que parfois ça va prendre un peu plus de temps, mais ils sont vraiment gentils avec moi, raconte Anaïs Sabourin qui vient travailler avec son chien Mira pour l'assister. C'est une nouvelle sur le site de tvanouvelle.ca qui paraît aussi dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. L'absence de médecins met en péril le traitement des anglophones aux prises avec des problèmes de dépendance. Le Centre anglophone de réadaptation en dépendance du Centre intégré en santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest, connu sous le nom de CRD Foster, n'aura plus de médecins à compter de la fin août 2018. Or, de nombreux cas de sevrage requièrent la présence d'un médecin en vertu des protocoles établis pour l'administration de la médication nécessaire. Les partenaires du CRD Foster ont donc été avisés que le centre de Saint-Philippe-de-la-Prairie ne pourra plus recevoir les cas requérant une présence médicale. La situation a des conséquences importantes sur la population anglophone, mais aussi sur le réseau régional de santé et de services sociaux. Elle prive la clientèle des services conçus pour répondre à ses besoins et oblige les intervenants et intervenantes à la référer au centre hospitalier de la région. C'est un résultat en contradiction directe avec les efforts de désengorgement des urgences promus par le ministère de la Santé et des Services sociaux, déplore Francis Collin, représentant national de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Montérégie-Ouest. Les intervenants et intervenantes vivent dans la crainte qu'une personne manifestant des symptômes de sevrage sévère ne parvienne pas à avoir accès aux ressources médicales appropriées. Il n'est pas rare que quelqu'un se présente au centre fortement motivé et déterminé à reprendre le contrôle de sa vie, mais sans soutien médical. Par conséquent, les intervenants et intervenantes ne pourront pas l'accompagner adéquatement dans cette démarche souvent très difficile. C'est plus que regrettable, poursuit le porte-parole syndical. Source de cette nouvelle alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Et je joins maintenant Annie Tremblay, responsable du programme gymnastique adaptée chez Via Gym, pour nous parler d'un nouveau programme de gymnastique adaptée pour les enfants à besoins particuliers au club Via Gym. Bonjour, Madame Tremblay.
Bonjour, Madame Denis.
Merci d'être avec nous.
Sans problème.
Alors, on voulait savoir dans quel contexte avez-vous développé le nouveau programme de gymnastique adaptée pour les enfants à besoins particuliers?
C'est simple. Je travaille chez Via Gym là, depuis 3 ans et mm-hmm. en réunion, j'expliquais là à quel point c'est difficile pour les parents d'enfants autistes et à besoins particuliers de trouver des loisirs adaptés. Parce que moi, j'ai un petit garçon autiste, puis ça fait plusieurs années là, tu sais, qu'on navigue, qu'on essaie plusieurs trucs, mais il n'y avait jamais rien qui fonctionnait.
Qu'est-ce que vous entendez par programme de gymnastique adaptée?
Ben en fait, c'est un programme qu'on a conçu avec une ergothérapeute et une psychoéducatrice qui nous ont conseillé. Mm-hmm. On a réduit les groupes. Donc, il y a 4 ou 5 enfants pour 2 entraîneurs. On essaie aussi du mieux qu'on peut de faire ça dans un environnement plus calme, avec moins d'enfants autour, moins de bruit. Aussi, les attentes sont beaucoup plus... plus petite, je dirais. Là. C'est vraiment plus pour amuser les enfants, pour leur donner du plaisir, et s'accomplir, mais dans des tâches là, qui sont vraiment adaptées là, à leurs particularités.
Oui, pour justement les encourager à continuer, puis sentir que tout va bien pour eux. C'est bon, j'imagine, pour leur confiance en eux aussi.
Oui, vraiment. Mon petit garçon qui suit le cours, là, j'ai vraiment vu une grande différence.
Ah oui?
Il essaie des choses maintenant et il réussit des choses qu'il aurait même pas, que moi, en tant que maman, j'aurais même pas imaginé qu'il aurait pu faire. Là.
Qu'est-ce qu'ils font exactement?
Bien, on touche un peu à tout ce qui est gymnastique. Donc, ils vont sur la poutre, ils vont sur la barre, on fait du trampoline, on fait des roulades. C'est vraiment un programme de gymnastique avec les mouvements de base de gymnastique, mm-hmm. mais simplifié un peu. Là pour. Il y en a qui font des choses plus difficiles, puis il
ouais.
y en a qui réussissent, tu sais, qui juste être dans le gym, écouter les consignes, être dans un groupe, ça, c'est déjà une belle réussite pour eux. Là,
et il y a combien d'enfants qui participent au programme?
Présentement, on a 9 enfants,
ouais.
donc 2 groupes. Pour l'automne, là, j'espère monter à 3-4 groupes et plus, là, si le besoin est là.
Mm-hmm. Est-ce que c'est un programme qui va se poursuivre tout l'été?
Non, pas
non.
cet été. On prend congé en même temps que l'école
ouais.
et on revient là, en automne là, pour la nouvelle année.
Et les enfants ont quel âge?
En fait, c'est ouvert pour les enfants de 3 à 12 ans.
Mm-hmm.
Présentement, on a seulement des 4 et plus, mais s'il y en a des plus petits qui veulent venir, là, on n'a pas de problème.
Alors, si on veut s'inscrire, on s'adresse au club Via Gym?
Oui, ils peuvent aller sur le site Internet. Toutes les
informations.
Les informations, c'est ça, sont là. C'est viagym.org.
Et ça dure combien de temps à chaque fois quand on s'inscrit au programme?
C'est un cours d'une heure pour 8 ou 10 semaines, dépendamment là, la session durant l'année. Là. Mm-hmm. Celle du printemps est plus courte, celle de l'automne et de l'hiver est plus longue.
Et à part l'estime de soi, la confiance, quels sont les bienfaits de la gym sur les enfants à besoins particuliers?
Bien, en fait, ça les aide là, au niveau motricité, ça c'est sûr. Aussi, je pense que de se retrouver avec des petits copains qui sont comme eux,
mm-hmm.
Tu sais, de se retrouver...
Ils se sentent moins seuls.
Puis il y a pas de... ils peuvent, tu sais, ont pas besoin de se comparer. Chaque enfant a ses propres difficultés, puis chaque enfant est heureux quand son copain réussit quelque
oui.
chose.
Il n'y a pas de compétition malsaine.
Mais il n'y en a pas du tout.
Ah non!
Du tout.
Mais tant mieux, tant mieux. Puis, vous l'avez conçu comment, avec qui, ce programme-là?
Bien, en fait, je l'ai fait moi-même avec une psychoéducatrice qui travaille d'ailleurs avec mon fils et une ergothérapeute là, tu sais, qui m'a conseillé plus sur les côtés sensoriels et la sécurité aussi des enfants parce qu'un gym, ben il y a des...
Il y a des dangers?
Ben oui,
mm-hmm.
mais c'est ça, elle m'a conseillé là, pour éviter tous ces dangers-là, pour que les parents soient rassurés
oui,
là,
oui.
Est-ce de l'autre côté de la vitre.
Oui, vous disiez que il y avait ça se faisait par petits groupes. Est-ce qu'il y a d'autres différences par rapport à un programme traditionnel?
Bien, en fait, à part les petits groupes et les attentes qui sont beaucoup plus petites, non, il n'y a pas de différence. Là,
non.
Ils font le spectacle de fin d'année avec les groupes réguliers. Le programme est vraiment là, presque pareil, mais comment je pourrais dire, là, c'est vraiment les mouvements de base de gymnastique.
Oui, oui.
Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a quelques petites différences. J'ai rajouté un tableau avec des pictos pour la routine. J'ai rajouté une valise de retour au calme. Si un enfant est en surcharge ou est anxieux, il peut aller s'asseoir sur, et fouiller dans la petite valise. Il y a des objets sensoriels, des trucs pour le massage. J'ai aussi des coquilles pour les enfants qui ont des particularités là, au niveau de la sensibilité au bruit.
Des coquilles pour se mettre sur les oreilles?
Oui,
okay.
Oui, parce que c'est écho dans le gym, donc il y en a qui aiment moins ça.
Oui, je peux comprendre. Pourrait... Et si la demande est là, est-ce que vous allez développer d'autres programmes, des programmes du même type?
Oui, j'aimerais vraiment.
Oui.
Pour la prochaine session, qui est celle d'automne, on va rester dans la gymnastique de base. Par contre, là, j'aimerais éventuellement là, offrir de la trampoline ou du répit aux parents. Des soirs, là, s'ils veulent sortir en couple, ben nous, on pourrait s'occuper des enfants, mais seulement avec c'est ça, des enfants à besoins particuliers.
Mais vous avez des bonnes idées, et puis je suis certaine que ça va faire plaisir et rendre service également. Annie Tremblay, responsable du programme gymnastique adapté chez Via Gym. Si on veut avoir plus d'informations, on peut aller sur le site web viagym.org.
Oui. Et aussi, il y a l'adresse info@commercialviagym.org.
Un grand merci, puis bravo et bon été.
Merci à vous aussi.
Merci.
Au revoir.
Un témoignage, être l'enfant d'un parent différent, c'est dans l'hebdojournal.com de Trois-Rivières. Pauvre toi. Cette phrase, Maude, Marie-Clara et Michel-Alexandre l'entendent souvent, trop souvent. Cette phrase, on leur dit chaque fois qu'ils mentionnent que leur père est en fauteuil roulant. Une différence pourtant bien visible, mais qui passe complètement inaperçue à leurs yeux. Marie-Clara, 18 ans, et Michel-Alexandre, 13 ans, ont toujours vu leur père en fauteuil roulant. L'aîné, Maude, 27 ans, se souvient de lui sur ses deux jambes. C'est que Sylvain Arsenault n'a pas toujours été contraint de se déplacer en roulant. Il est atteint d'une maladie neurodégénérative qui s'appelle l'ataxie spinocérébelleuse. La maladie s'attaque à mon cervelet, explique Sylvain. Dans mon cas, ce sont mes jambes qui sont surtout affectées. L'information part de mon cerveau à 100%, mais il y a seulement 10% qui se rendent jusqu'à mes jambes. Je les sens et je les bouge, mais je n'ai plus d'équilibre. Les premiers symptômes de cette maladie héréditaire se sont manifestés quand Sylvain venait tout juste d'atteindre l'âge adulte. J'étais en vélo et je sentais que j'étais moins solide sur mes jambes, se remémore-t-il. Au fil des ans, la situation s'est dégradée, mais ça ne l'a jamais empêché de mener une belle vie. On a toujours vécu comme ça, alors ça ne fait aucune différence à nos yeux, ajoute Michel-Alexandre. On n'a pas pitié de notre père. Ce sont les autres qui trouvent que notre famille est différente, pas nous. Je ne me suis jamais dit que c'était dommage de ne pas faire telle ou telle chose avec mon père. On fait quand même plein de choses ensemble. Je suis chanceux parce que je peux passer du temps avec lui. Dans le nouveliste.ca, victime d'un AVC, elle risque de tout perdre. Une femme de Trois-Rivières qui doit composer avec des limitations physiques importantes à la suite d'un AVC se bat depuis 18 mois pour être reconnue par Retraite Québec comme pouvant bénéficier d'une rente d'invalidité. À bout de ressources et sur le point de tout perdre, elle et son conjoint ont accepté l'offre d'un ami de réaliser une campagne de sociofinancement pour leur permettre de se tenir la tête hors de l'eau d'ici à ce que la décision de Retraite Québec soit rendue. Caroline Vaudrin avait 43 ans lorsqu'elle a fait un AVC le 5 octobre 2016 au beau milieu de la nuit. Réveillée par son chien qui sentait que quelque chose n'allait pas, son conjoint Sébastien Laperrière a pu rapidement contacter les secours, ce qui a sauvé la vie de son amoureuse. Aujourd'hui, c'est le patrimoine familial qu'ils ont ensemble passé une partie de leur vie à bâtir qu'ils tentent de sauver. Eux qui sont à quelques semaines de devoir rendre les clés de la maison et tout perdre ce qu'ils ont gagné en travaillant depuis toutes ces années. C'est qu'après avoir bénéficié d'un suivi médical serré pendant plusieurs mois, dont plusieurs semaines de réadaptation au centre Interval, les médecins ont annoncé vers la fin du mois d'août 2017 qu'elle venait d'atteindre un plateau et que sa condition serait permanente. Terminée la possibilité de retourner au travail pour Caroline, qui avait déjà placé une demande à Retraite Québec pour obtenir des rentes d'invalidité. Retraite Québec a alors demandé un délai de 90 jours pour étude, puis un nouveau délai en octobre pour finalement indiquer au couple, il y a quelques semaines, qu'une autre expertise médicale serait de nouveau requise afin de confirmer l'état d'invalidité permanente de Caroline, expertise qui pourrait prendre encore 6 mois. www.gofundme.com/pour-caroline-et-sébastien. Et je joins maintenant Mireille Tremblay, professeure associée au département de communication sociale et publique à la faculté de communication UQAM. Bonjour, Madame Tremblay.
Bonjour, Madame Denis, ça va bien?
Oui, merci. Et merci à vous d'être avec nous pour nous parler du programme définitif de notre semaine droit, citoyenneté et handicap UQAM 2018 qui se tient du 11 au 15 juin à l'UQAM. Qu'est-ce que la semaine droit, citoyenneté et handicap UQAM 2018?
C'est une semaine... À la limite, c'est pratiquement un congrès ouvert au public avec une dizaine d'ateliers portant sur différentes catégories de droits. Et c'est en même temps un cours qui a été reconnu depuis l'an dernier, un cours de deuxième cycle qui s'adresse à des étudiants, étudiantes qui s'intéressent à la reconnaissance, développement des pratiques concernant l'exercice des droits des personnes en situation de handicap.
Alors, de quoi il sera question plus précisément pendant cette période du 11 au 15 juin?
Tous les ateliers sont construits autour de thèmes qui ont été identifiés par des personnes en situation de handicap dans le cadre d'un programme d'éducation à la citoyenneté démocratique. Les ateliers sont tripartites, c'est-à-dire réunissent à la fois des personnes du milieu de l'intervention, des personnes représentant des groupes d'associations de personnes en situation de handicap et aussi des personnes du milieu de la recherche et de l'enseignement.
D'accord.
Donc, c'est toujours tripartite. Chaque atelier de 3 heures, il y en a 10, porte sur un thème spécifique. Donc, il y en a un sur l'accessibilité universelle et les villes inclusives, accessibilité, médias et technologies, droits civils et représentation du handicap, les droits au travail, les droits sexuels, les droits culturels, les droits politiques. Donc, tous les ateliers sont construits autour d'une série de droits. Les participants, les participantes peuvent s'inscrire à l'atelier de leur choix quand ils viennent du public. Évidemment, les étudiants doivent participer à tous les ateliers de la semaine, mais la participation à un atelier en particulier est ouverte au public selon leurs intérêts.
Et le programme de l'école d'été, ça a un lien là, avec la semaine droit, citoyenneté, handicap. C'est la même chose, c'est ça?
C'est-à-dire, on a commencé par une espèce de congrès où on développait des thèmes de façon tripartite avec des partenaires. Et au fur et à mesure, ça a pris la forme d'un cours qui a été reconnu par l'Université du Québec à Montréal comme un cours de deuxième cycle.
Vous parlez niveau maîtrise, c'est ça?
Niveau maîtrise, c'est
ouais.
Ça.
Okay.
Ouvert à plusieurs disciplines, des sciences humaines, sciences de l'éducation, psychologie, travail social, des écoles d'art aussi. Donc, c'est ouvert à différentes disciplines.
Et quel rôle vont jouer vos étudiants?
Les étudiants, évidemment, ils participent à toute la semaine. Tous les ateliers sont construits autour de, on en a 3 heures à peu près. Il y a 2 séances, une première d'une heure et demie, pendant laquelle les panélistes échangent et font part de leur expérience à partir d'expériences novatrices, des stratégies d'émancipation des personnes, des pistes de travail, de collaboration, etc. Ça, c'est la première heure et demie. Mm-hmm. Et la deuxième heure et demie, c'est une période d'échange avec les étudiants et l'ensemble des participants sur les questions qui ont été évoquées et le thème qui est abordé. Chacun des séminaires est construit autour d'une question, comme par exemple pour les droits culturels, est-ce que l'exercice des droits culturels peut-il contribuer à la reconnaissance et à l'émancipation de tous? Alors, tous les ateliers portent sur une question et on cherche à faire le point sur la situation des personnes, voir quelles sont les stratégies qui ont pu être utilisées, qui sont utilisées, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation.
Et qui peut assister aux ateliers?
N'importe qui.
N'importe qui? C'est ouvert à tous.
C'est ouvert au public, sous réserve que les personnes s'inscrivent, par contre, parce que le nombre de places est limité au total à peu près à 40-45 personnes pour chacun des ateliers.
Est-ce qu'il reste encore de la place?
Oui, pour plusieurs ateliers.
Oui, et si on veut s'inscrire, on fait quoi?
Ce que je suggère, c'est d'aller sur Internet et chercher, on a un site Google spécifique pour le public qui est FSH 8000,
mm-hmm.
parce que c'est le nom du cours.
FSH, F comme François, S comme Sylvain, H comme Hélène.
Oui, et comme Faculté des sciences humaines.
D'accord.
Donc, FSH 8000 2018. Il y a un site qui est celui de l'UQAM qui est pour spécifiquement pour le cours, mais il y a un site qui donne la programmation et sur lequel on retrouve le formulaire d'inscription. Et ça, c'est accessible au public.
Bon, et ceux et celles qui sont intéressés mais qui ne peuvent pas être présents parce qu'ils ne sont pas disponibles pour toutes sortes de raisons, est-ce que vous allez faire des captations vidéo ou sonores de ces ateliers?
Non, on a prévu de faire des captations.
Vous n'avez pas prévu de faire des captations?
Non, mais on refait le programme à tous les ans.
Mm-hmm.
Donc, on peut penser que l'année prochaine, on va le refaire également.
Oui. Alors, il faut payer pour participer à cette semaine.
Non, pour le public, c'est gratuit.
C'est gratuit. Bon,
pour les étudiants doivent payer parce qu'ils s'inscrivent dans un cours, ils vont remettre des travaux, se soumettre à une évaluation.
Mm-hmm.
Donc, c'est payant pour les étudiants, ils obtiennent des crédits. Alors que pour le public, c'est gratuit.
Et vous, est-ce que vous allez être là pendant toute la semaine?
Oui, exact.
Oui?
On est quatre professeurs de l'UQAM qui organisons la semaine. On a plusieurs invités, que ce soit des professeurs ou qui viennent de la Commission des droits de la personne ou qui viennent de différentes organisations et associations. Donc ça roule, mais les professeurs en charge, on est pratiquement là toute la semaine.
Bien, alors, je vous souhaite une belle semaine. Droits, citoyenneté et handicap UQAM 2018 du 11 au 15 juin. Merci beaucoup, Mireille Tremblay, d'avoir été avec nous.
Merci. À
au
vous.
Plaisir.
Au revoir.
Une nouvelle série de Radio-Canada.ca, inauguration de nouveaux locaux pour les jeunes en difficulté à Gatineau. Les jeunes en difficulté de l'Outaouais pourront profiter de nouveaux locaux mieux adaptés à leurs besoins en matière de sécurité, d'intimité et de qualité de vie dans l'espoir d'optimiser leurs chances de réinsertion dans leur milieu de vie. Le complexe devient le centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de l'Outaouais, dans lequel tous les services à cette clientèle en difficulté seront regroupés. Les nouvelles installations permettront d'accueillir de façon plus adéquate les jeunes hébergés dans trois maisons désuètes rue Notre-Dame. Le bâtiment abritera 24 unités privées, des lieux spacieux pour des activités collectives ou individuelles et une salle d'apaisement. La durée moyenne de séjour d'un adolescent retiré de son milieu en raison de difficultés d'adaptation est d'environ 9 mois. Le projet de 5,4 millions de dollars permet également l'aménagement de quatre nouvelles unités privées dans l'édifice d'origine. Le nombre total de résidents dans les deux ailes du nouveau centre passe donc à 52, soit 24 filles et 28 garçons. Les premiers locataires dans la nouvelle aile arriveront en juin afin de leur permettre de finir leur année scolaire dans leur école actuelle. Dans ledroit.com, 33 000 coureurs, 33 000 raisons. La fin de semaine du Marathon d'Ottawa est plus qu'une suite de parcours. C'est souvent pour plusieurs l'aboutissement d'un voyage intérieur. Il y a 33 000 coureurs, il y a 33 000 raisons. Tout le monde court pour une raison personnelle. On veut se mettre en forme, on se remet d'un cancer. On veut se prouver qu'on peut le faire. On a toujours eu ça comme idée. Et on le fait finalement. On a eu des enfants et on veut se remettre en forme. On en a de toutes les couleurs, explique Annie Boucher du comité organisateur de la fin de semaine des courses d'Ottawa-Tamarack. Gaston Bédard-Delmer en était hier à sa troisième participation au marathon d'Ottawa. Ancien marathonien accompli, il s'est déjà qualifié pour le marathon de Boston, mais le syndrome Duchère, un trouble génétique s'attaquant à la vue et à l'ouïe, l'a rendu complètement aveugle en 2002. Qu'à cela ne tienne, il a depuis disputé une trentaine de courses et a même entrepris en 2015 un retour au marathon de Boston. Il vise maintenant le marathon de New York en novembre. Sa technique? Il court avec l'aide de coureurs-guides qui l'épaulent durant les épreuves. Un autre coureur, lui aussi victime d'une maladie et de ses complications, s'est élancé avec sa marchette dimanche pour le grand marathon. La première fois qu'il s'était mesuré à l'épreuve, il avait terminé bon dernier. Ce dimanche, il visait un temps de près de 5 heures. Les gens à mobilité réduite peuvent désormais entreprendre des parcours de course grâce à un petit véhicule hybride entre la marchette ou le déambulateur et la bicyclette. Un groupe de ces cyclistes à pied, entre guillemets, a accompli le 2 km samedi. Ils étaient de tous les âges, pas seulement des aînés. Invitation, dîner, conférence au RAM le 5 juin, les activités estivales 2018 offertes aux personnes handicapées visuelles. C'est donc le mardi 5 juin de 10h30 à 14h. Les organismes offrant des activités sportives et de loisirs à l'intention des personnes handicapées visuelles viendront vous présenter leur programmation d'activités d'été 2018. Ce sera l'occasion de venir découvrir tout ce qui s'offre à vous pour un été bien rempli. Représentantes et représentants de différents organismes, entre autres Mme Linda Noël du Cercle des handicapés visuels de Ville-Marie, ainsi que Mme Jocelyne Richard de l'Association des sports pour aveugles de Montréal vont s'occuper de l'animation. Le coût, 15 $. La date limite d'inscription, c'est vendredi, cette semaine, 1er juin. Vous pouvez vous inscrire auprès d'Anna, 514-277-4401. 514-277-4401, poste 111, ou par courriel à administration@ram.org. La participation de 15 personnes minimum est requise pour la tenue de cette activité. Un grand merci d'avoir été à l'écoute des Paractualités. On se reprend demain. J'espère bien que vous serez au rendez-vous. Ici Hélène Denis qui vous dit merci d'avoir été là. Et merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté à la technique, Anne-Laure Janson à la recherche. Merci à mes invités, Annie Tremblay, responsable du programme gymnastique adapté chez Via Gym, et Mireille Tremblay qui nous parlait du programme définitif de notre semaine droit Citoyenneté Handicap UQAM 2018 qui va se tenir du 11 au 15 juin à l'UQAM. Bon lundi, à demain.